Voici Wagon Livre, c'est ce soir le 68e numéro de votre magazine littéraire. Bonsoir à toutes et à tous. Wagon Livre, c'est le rendez-vous privilégié de celles et ceux qui aiment les livres et les auteurs. Et ce soir, et je l'en remercie à l'avance, j'accueille devant le micro de Wagon Livre et de Radion, j'accueille Jenny Lafitte. Bonsoir Jenny.
Bonsoir Yannick, et merci de m'avoir invité.
Mais écoutez, je vous remercie. Alors, il faut bien préciser que cette émission a été enregistrée dans une brasserie dijonnaise, on va la citer, c'est la brasserie L'Imprimerie, qui se trouve place d'Arcis, qui explique d'ailleurs le bruit d'ambiance qui nous environne. Et je dois signaler aux auditrices et auditeurs de Wagon Livre, Jenny, que vous êtes venu accompagné de votre éditeur jusqu'à Dijon, depuis Genève tout de même, puisque vous y résidez.
Tout à fait.
Alors, avant de parler de votre roman, Alaïs, la délivreuse de vie, aux éditions Pierre-Philippe, eh bien, Jenny, je pense qu'on va peut-être vous présenter un peu à nos auditrices et auditeurs afin de savoir qui se trouve ce soir en notre compagnie. Jenny, vous êtes née dans le sud de la France. Très jeune, vous étiez déjà passionnée par l'écriture et très petite fille, dès l'âge de 4 ans, vous pratiquiez la danse parce qu'il faut le dire, nous avons devant le micro une ancienne, une ex-danseuse étoile qui a mené, Jenny, vous avez mené une carrière internationale de danse. Alors déjà, ça impressionne. Et la reconversion, puisque malheureusement, les carrières artistiques, de surcroît les carrières de l'univers de la danse, sont courtes. Il arrive un moment où c'est le corps qui forcément... Fait des barrières
Non.
À la poursuite d'une carrière
Non, pas toujours.
Est-ce qu'on peut danser jusqu'à 50, 60 ans
Moi, je le pourrais. Non, c'est disons, on arrête parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que Juliette a 15 ans, parce que Aurore dans La Belle au Bois dormant a également 15 ans. Ce sont des rôles de très jeunes filles, donc quand on aime la danse classique, et c'est particulièrement la danse que j'aime, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Bon, après, nous pouvons continuer avec une danse plus contemporaine, ça c'est sûr.
Il faut préciser, Jenny, que vous avez tout de même, on peut dire, une petite part de votre vie est étroitement liée à Auxerre, puisque vous y avez passé une partie de votre enfance.
Oui, en effet, jusqu'à l'âge de 7 ans, même 8 ans, je suis restée à Auxerre. C'est une ville que j'aime énormément parce que je garde des souvenirs de ma petite enfance. Et c'est vrai que les gens étaient très attachants. Je revois mon institutrice, mon instituteur, mais vraiment les premiers amis auxquels je pense. J'ai toujours une pensée particulière pour tout Auxerre. Je suis très touchée. C'est une magnifique région.
Alors la ballerine commence dès l'âge de 4 ans, vos premières ballerines dès l'âge de 4 ans, mais vous avez toujours eu un lien privilégié avec l'écriture.
Oui, alors déjà...
Qu'est-ce que vous écriviez, toute petite Jenny?
Des poèmes. Voilà, alors les premiers mots, je pense, de l'enfant, hein, on va dire, en général, pas seulement pour moi, hein, je pense à des amis aussi qui écrivent, m'ont dit que leurs premiers mots sur le papier, c'était des poèmes, de jolis petits poèmes d'enfant, bien évidemment.
Alors, petits poèmes d'enfant, et puis une belle carrière qui commence par l'étude de la danse au Conservatoire National Supérieur de la ville de Paris, s'il vous plaît. Et là, vous avez rencontré... une camarade qui, elle, a fait une carrière au cinéma. Je vous laisse la nommer.
Oui, c'est Mathilde Amé. Oui, alors nous avons même habité ensemble. Hein. Moi, j'ai habité donc dans sa famille, chez sa maman, avec sa sœur. C'était des moments extraordinaires. On grandissait ensemble. On avait une innocence et surtout cette passion de la danse.
Vous sortirez diplômé donc du Conservatoire National Supérieur de la ville de Paris avec la mention très bien, et là commence une brillante carrière de danseuse étoile qui va vous conduire cher Jenny, aux quatre coins du monde, sur différents continents. Alors, par exemple, en 1989, vous étiez à Berlin au moment de la chute du mur. Ça, c'est la carrière de danseuse qui faisait que vous étiez là, mais vous avez été à Hanovre aussi, longuement, oui, hein, oui. Donc ville du nord de l'Allemagne.
Oui, oui, j'ai dansé à Berlin, à Hanovre, à Zurich, je suis allée partout dans le monde. C'est vrai que j'étais là pendant la chute du mur de Berlin. J'ai pu vivre des instants exceptionnels. C'est vraiment incroyable de ressentir cette liberté, ces gens qui sont libérés d'un joug terrible. Hein. La dictature communiste était très difficile. Donc j'ai vu des moments exceptionnels tout au long de ma vie. Si on pourrait faire un livre, ne serait-ce de ce que nous pouvons voir au travers le monde, cette découverte de culture, de peuple, c'est merveilleux. J'en suis totalement empreinte. Hein. C'est mes livres sortent de tout ce que j'ai pu voir autour de moi aussi.
Nous allons bientôt parler du roman, de votre roman, Alaïs, les délivreuses de vie, mais il faut préciser que un tome 2 sera sorti en avril en France et au mois de mai en Suisse, qui aura pour titre donc Alaïs l'immortelle. Mm-hmm. On est d'accord. Mm-hmm. Alors, vous avez dansé avec des figures prestigieuses masculines, Patrick Dupont, Nourieff.
Oui, oui.
Et puis, donc, nous l'avons dit, vous avez eu. C'est la chance aussi et les opportunités de découvrir différents peuples, différentes cultures, de par vos différentes représentations aux quatre coins du monde. Alors, le moment est venu, j'allais dire, de rencontrer Alaïs, puisque c'est l'héroïne qui donne son prénom à votre premier roman. C'est votre premier roman, paru aux éditions Pierre-Philippe, Alaïs, la délivreuse de vie. Et je crois que, pour entrer en matière, il faudrait peut-être expliquer le sous-titre. Bon, Alaïs est un prénom. D'ailleurs, la narratrice dit qu'on ne sait pas trop d'où vient le prénom. Je ne sais pas comment vous l'avez forgé.
Alors, le prénom, pour ainsi dire, je l'ai inventé. Hein, parce que Alaïs avec deux S n'existe pas. Donc ça, évidemment, je l'ai inventé. Maintenant, ce prénom m'est venu comme ça, comme s'il était tombé sur moi. Et je me suis dit, mais allons voir malgré tout s'il existe. Donc je suis allée sur Internet et je me suis rendu compte que Alaïs avec un seul S est un prénom qui date du Moyen-Âge, qui se trouve aux côtés de Guenièvre, par exemple, ces prénoms qui sont assez anciens, mais qui ne s'écrit qu'avec un seul S. Et donc, moi, j'ai opté pour deux S, comme je l'avais prévu au départ. Mais il est vraiment né de mon inspiration.
Au tout début de votre roman, l'auteur, vous donc, c'est pas l'éditeur, a souhaité rappeler la polysémie de ce qu'était un délivreur ou une délivreuse. Alors, le délivreur, sens 1, celui qui met en liberté. Il y a un deuxième sens qui est plus gastronomique, enfin, qui est plus lié au service dans les offices. Chez le roi, donc, c'était les délivreurs distribuaient le pain, le vin et les autres provisions nécessaires donc, pour l'usage de la maison et des tables. Bon, c'est aussi un terme de manège, c'est le domestique qui donne l'avoine au cheval, ce qui n'est pas le cas de Alaïs, elle ne donne pas d'avoine, elle donne peut-être du grain à moudre à l'animateur que je suis, mais cette délivreuse, c'est une femme, alors je vous cite, pour l'auteur, la délivreuse qui est Alaïs, c'est une femme qui délivre des personnes ayant une mauvaise vie pour une vie meilleure. Finalement, c'est une quasi-sainte. Elle libère les gens de leur de l'emprisonnement dans une vie médiocre et entachée de péchés et d'erreurs.
Tout à fait. Elle est vraiment la délivreuse de problèmes, on va dire. Des gens ont des vies très difficiles, lourdes à porter, chacun a sa destinée. Nul ne peut vivre la destinée de l'autre. Donc elle ne peut que les délivrer. Elle ne peut que ou les sauver d'eux-mêmes, parce que vous verrez tout au long du livre, en ce qui concerne les auditeurs, hein, parce que je sais que vous l'avez lu, Yannick, mais des gens prennent parfois un chemin qui est contraire, on va dire, à leur bien-être. Hein. Ce sont des gens qui sont de mauvaise foi, qui exploitent les autres, qui leur font du mal. Donc, elle les délivre aussi de cette mauvaise vie, quelque part. Non pas parce qu'elles se sent obligées, mais parce qu'il faut arrêter ces gens. Et après, elle aide aussi des gens qui souffrent terriblement, qui sont. Elle est empreinte de compassion, de tolérance. Elle a envie de tendre la main à son prochain en permanence.
Est-ce qu'elle vous ressemble? C'est une question un peu facile. Quelle est finalement, quand on est auteur, quelle est la part personnelle, la part autobiographique que l'on peut plaquer sur le personnage qu'on a créé? Certes, Alaïs est un personnage de papier, mais dans mon esprit, parfois, en vous lisant, et avant de vous rencontrer, Jenny, il y avait une confusion, Jenny, Alaïs, parce que cette féminité, cette grâce, cette douceur, bon, elle peut être romantique, sentimentale, mais elle est capable aussi, de par les pouvoirs hors normes, exceptionnels, dont vous l'avez munie, elle est capable aussi d'agir un peu comme un homme.
Tout à fait.
Elle a une force qui est une force mentale et non pas corporelle ou physique.
Tout à fait. Elle a la force, c'est vrai, elle a une force masculine en elle qui n'est pas physique, mais qui serait sur un point de vue caractère, sur les décisions à prendre. Elle ne reculera pas, elle ne recule jamais, dans les prochains livres non plus. Maintenant, je l'ai dotée de ses pouvoirs parce que je crois profondément que nous avons en nous des ressources extraordinaires que nous n'utilisons pas.
Ou dont nous n'avons pas conscience.
Peut-être aussi. Je pense que nous devrions nous interroger davantage sur la force de la pensée, la force de la volonté, du courage. Maintenant, là où elle me ressemble le plus...
Oui, alors.
Alors, ça va être incontournablement tendre la main à son
prochain.
Dans
la solidarité et l'entraide.
Oui, la solidarité, l'entraide, ça c'est vraiment...
Nous reviendrons de toute façon sur les pouvoirs exceptionnels d'Alaïs, puisque c'est aussi tout le piment, tout le sel du roman, toute sa force. Mais, Jenny, on va, si vous le voulez bien, marquer un premier intermède, une première pause musicale. On se retrouve d'ici quelques minutes avec donc notre invitée, Jenny Lafitte, pour son roman Alaïs, la délivreuse de vie, paru aux éditions Pierre-Philippe. Et nous écoutons Charles Aznavour.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Radion. Radion.
C'était Charles Aznavour et Les Comédiens, son titre, Les Comédiens, pas de comédien ce soir, mais une ancienne danseuse étoile et une jeune romancière, puisque elle nous présente ce soir son premier roman, Alaïs, c'est pas Anaïs, c'est Alaïs, A-L-A-I, tréma 2-S, Alaïs, la délivreuse de vie, roman que Jenny nous présente ce soir et qui est sorti aux éditions Pierre-Philippe, maison d'édition franco-suisse, française, franco-suisse.
Oui, oui, c'est elle est franco-suisse, mais c'est un français qui la dirige.
Le moment est venu de parler plus longuement encore de notre fameuse Alaïs. Alaïs a des pouvoirs exceptionnels, mais on va peut-être, si vous le voulez bien, je vais vous le demander, Jenny, on va peut-être poser, en tout cas, l'intrigue initiale du roman. On ne va pas tout raconter. Il faut permettre aux auditrices et auditeurs qui, je le souhaite, se procureront votre roman après l'émission. Mais posons le décor. Le roman commence, s'ouvre sur ce qu'on pourrait croire être un polar, enfin un début de roman policier.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Elle va devenir la délivreuse, justement parce que sa meilleure amie va venir la chercher pour essayer de résoudre le problème de l'absence de son mari. Hein. Elle ne sait pas encore qu'il est mort, qu'il est décédé, mais elle va le savoir au fur et à mesure. Et elle vient chercher Alaïs parce qu'elle se doute qu'Alaïs a un sixième sens très développé. Elle lui fait entièrement confiance au niveau de son avis, de ses opinions, de ce qu'elle peut lui dire, ses conseils, comment elle peut la conseiller, etc. Donc ça démarre effectivement comme un roman policier.
Alors, le mari de Noël, l'ami d'Alaïs, va être retrouvé étouffé, mais il a mis quelque part son nez, ou en tout cas il a mis le doigt, sur un engrenage, puisqu'en découvrant des ateliers de confection clandestins tenus par des Chinois qui exploitent des Chinois qui sont venus à Paris, on ne sait trop par quelle filière clandestine et illégale, en mettant le doigt sur cette découverte de la misère humaine, c'est le début aussi du roman. Et c'est là que Alaïs peut montrer toute sa splendeur, toute sa force, aidée par une police française, puisque l'action se passe en France, c'est à Paris, mais il n'y a pas trop d'indications géographiques dans le roman.
Non, c'est vrai, mais l'action se
On
passe
sait que les ateliers sont à Paris, rue des Saules, très précisément.
Voilà.
Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le personnage d'Alaïs, parce que Alaïs, quelque part, elle est remplie d'un idéal qui voudrait totalement éradiquer la misère, l'exploitation des hommes par d'autres hommes. Et finalement, c'est un vaste combat qui commence pour Alaïs, lutter contre les forces du mal, lutter contre la misère, contre l'horreur, et vouloir mettre à jour un monde meilleur. Mon Dieu, c'est une vraie ambition. Là, il y a du travail.
Oui, elle est vraiment... mais bon, elle est forgée sur la résolution positive, on va dire. Hein. Alaïs est faite avant tout d'espoir. Hein. C'est une jeune femme qui est persuadée que c'est parce que nous intervenons positivement pour le monde, nous faisons du bien autour de nous, que le monde se portera mieux. Donc, à aucun moment, elle ne doutera, et dans tous les livres qui suivront, elle ne doutera de cette force qu'elle a en elle, de cette énergie pour aider son voisin. Hein. En fait, c'est ça. Bon, maintenant, l'histoire de Soujin est dramatique. Ce sont des ateliers clandestins en plein cœur de Paris. On a encore démantelé un réseau il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de cette jeune fille toute jeunette à qui on a promis beaucoup de choses dans un autre pays que le sien. Et puis finalement, elle se retrouve à coudre toute la journée, exploitée, etc. Et donc, elle va là où j'ai voulu quelque chose de merveilleux dans tout ça, c'est qu'Alaïs va être appelée par cette jeune fille, Soujin. Elle va être appelée au fond d'elle-même, elle va entendre cet appel dans son esprit, dans son âme. Elle va ressentir qu'une personne a besoin d'aide et elle va répondre positivement à sa demande.
La télépathie joue un rôle important. Alaïs a la capacité de lire dans les pensées des autres. Mm-hmm. vivant ou mort, ce qui est là encore plus impressionnant, parce que Peter, le mari de l'ami Noël, qui donc est retrouvé étouffé, son corps se trouve à la morgue, et là, Alaïs va reconnaître, identifier le corps, certes c'est bien lui, mais il y a une scène assez forte, et qui là aussi demande que l'on rentre dans un univers qui n'est pas cartésien, qui est quand même un univers de force extraordinaire, exceptionnelle. Alaïs peut rentrer en communication avec... Alors, c'est plus le mental, puisqu'il est mort. Qu'est-ce qui survit, alors, dans ce cas, après ?
On est dans le subconscient. On est dans le subconscient. Le subconscient, bon, on le sait, hein, c'est une boîte qui enregistre les données. Hein, et elle va aller chercher, donc, ces données. C'est de la télépathie, hein, auquel je crois profondément. Hein, je pense qu'aujourd'hui, bon, nous avons perdu beaucoup, beaucoup de capacités. Mais quand les civilisations passées, hein, dans l'Antiquité, disaient que nous pouvions communiquer par la pensée, je le crois profondément. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas ? Puisque nous pouvons mettre des mots sur une bouche, pourquoi ne pas entendre les pensées de l'autre ? Donc j'ai voulu, même si ce n'est pas possible, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai voulu quand même qu'elle ait ce pouvoir de télépathe.
Mais le langage, bien sûr, ce sont les mots. Alors il se matérialise sur le papier quand on est auteur. Il y a une transcription du langage. Mais pour les pensées, apparemment, Alaïs est un être élu. Elle est la seule dans le roman à avoir ce pouvoir de capter, d'enregistrer, de décrypter ces... C'est ce subconscient, elle est la passerelle entre le monde terrestre et un monde pas céleste, j'allais dire un monde aérien. Vous l'appelez le monde invisible.
Le monde de la transparence.
Ah, le monde de la transparence.
Oui,
alors là, c'est pas transparent pour tout le monde.
Oui, mais je l'appelle comme ça parce qu'une fois là-haut, je suis convaincue que, bon, nous savons tous, hein, nous naissons, nous mourons, bon, on ne peut pas y échapper, hein, donc tout le monde s'interroge un petit peu. Chaque fois que je parle à une personne de mon livre, les premières choses que les lecteurs me demandent, c'est: mais vous croyez vraiment qu'il y a un monde après? Ce serait merveilleux, nous le voudrions, etc., etc. Donc ça ranime quand même une foi, qui n'est pas suffisamment présente, je trouve. Donc ce monde de la transparence, ce monde où l'on ne peut pas tricher, où nous allons après, nous ne pouvons plus tricher. Parce si nous disons dans ce monde-là, c'est pour ça qu'elle aime profondément ce monde invisible, parce qu'elle ne peut pas, on ne peut pas lui mentir finalement, il n'y a plus rien à prouver.
Le thème est grave quand même, parce que vous êtes capable de nous conduire, avec votre roman, dans les sphères astrales, c'est-à-dire donc dans ce monde de la transparence, donc ce qui se trouve après la vie, quand on pense qu'il y a quelque chose après la vie, là après les conceptions idéologiques, philosophiques de chacun se rejoignent ou pas, mais il y a un temple de la régénération, et là chaque personne décédée subit une purification, et elle est indispensable, cette purification, sinon c'est la condamnation qu'on retrouve effectivement dans des mythes très anciens de l'âme qui va errer et qui donc ne trouvera jamais de repos. Alors là, c'est vrai que vous nous faites rentrer dans une dimension effectivement entre l'étrange mais aussi la gravité de qu'y a-t-il après la mort et de la vie ou survie de l'âme, ce qui est immatériel.
Tout à fait. Oui, là, quand je parle de régénération, je pense, par exemple, si on prend Peter dans le livre, hein, lui, c'est lui qui va vivre ça.
Donc Peter, rappelons bien, c'est le fameux détective privé qui avait commencé à mener une enquête et qui avait donc découvert l'activité clandestine des ateliers de confection des Chinois, qu'on retrouve étouffé, qui meurt et qui est le mari de Noël, la meilleure amie de Alaïs, hein, pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs.
Tout à fait, tout à fait. Donc je lui consacre un chapitre parce qu'il se retrouve là-haut. Il est très, très furieux d'avoir été fauché en pleine fleur de l'âge, hein, comme on dit. Il est très, très fâché. Il se sent trahi, floué. En plus, il ne savait pas du tout qu'il y avait une vie après celle-ci. Donc il arrive là-haut, il retrouve sa sœur qui va le conduire, qui va l'aider, qui va le guider, hein, sur ce chemin, et qui lui conseille effectivement de rentrer dans ce temple de la régénération. Parce que moi, j'ai voulu en fait que Peter, qui est empreint de colère, qui est très fâché, qui est frustré de ne pas pouvoir continuer ce qu'il avait commencé, toute une vie, c'est une vie qui s'arrête en l'espace de quelques secondes. Donc je l'ai fait rentrer dans ce temple. Quand je dis un temple de purification, c'est la purification de l'esprit, c'est-à-dire que tous ces sentiments finalement terrestres doivent rester sur terre. Ça doit rester dans le passé par rapport à son avenir qui l'attend, parce que je crois que nous avons plusieurs dimensions là-haut. Je ne crois pas qu'il y a un paradis seulement et puis un enfer, c'est tout. Je crois qu'il y a plusieurs maisons, on va dire entre guillemets, plusieurs demeures, j'aime beaucoup cette phrase. Et donc, voilà.
Jenny, on va se quitter quelques instants, le temps pour nous d'une petite escale musicale. Alors avec une chanteuse qui va avoir 60 ans et que vous comme moi avons bien connue dans notre jeunesse, si je vous dis Desireless, vous vous rappelez de Desireless?
Oui, tout à fait.
Elle chantait en 1986 un titre que nous allons entendre, c'est Voyage, Voyage, et j'ai pensé qu'avec tout ce que vous aviez fait, eh bien, c'était un merveilleux clin d'œil à votre expérience. Oui, on se retrouve dans quelques minutes avec Jenny Lafitte, l'auteur de Alaïs, la délivreuse de vie, aux éditions Pierre Philippe. Voyage, voyage, Desireless, si vous montez à bord de notre wagon-livre, eh bien sachez que ce soir, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Jenny Lafitte pour son roman « Alaïs, la délivreuse de vie » aux éditions Pierre Philippe. Alors on avait, avant de nous Alors écoutez, Désirless, on a parlé du temple de la régénération, donc de qu'y a-t-il après la vie ? Eh bien, il y a un univers où rien n'est perdu, où l'on peut justement retrouver ceux qui sont partis avant nous. C'est le cas de Peter qui retrouve sa sœur. Alors, elle a continué de grandir quand même étonnamment, parce qu'elle est morte toute petite d'une pneumonie quelques jours après sa naissance. Et il retrouve une jeune femme charmante, qu'il prend d'ailleurs pour un ange, et qui va l'accompagner et quelque part l'acclimater à sa nouvelle sphère post-terrestre. Et il y a un passage, alors c'est drôlatique et plein d'humour, c'est l'arrivée, alors c'est un peu le paradis quand on arrive devant Saint-Pierre. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on arrive dans cet univers de ceux qui ont quitté, qui doivent en tout cas se dépouiller de leur enveloppe terrestre, tout est esprit. Et Roger, le prénom, c'est Roger, il cherche un paquet de cigarettes, il veut boire un whisky, et on lui dit, mais attends Roger, tu n'as pas bien compris où tu te trouvais. Et finalement, cette page humoristique est assez réconfortante et vient un petit peu rééquilibrer la lourdeur de la pauvre existence de Su Jin, vous le dites, très bien, c'est Su Jin, cette petite chinoise qui finalement est exploitée dans ces ateliers clandestins de confection. Alors un petit mot quand même sur Roger l'épicurien.
Roger l'épicurien. Ah oui, alors ça c'est... Bon, Roger c'est un homme qui a bien vécu, qui a bien mangé, qui a bien bu, bien fumé, enfin vraiment qui a été rattaché profondément aux choses de la terre. Hein. Bon, il est certain que arrivé là-haut, tout à coup il ne s'est pas mis à changer en devenant très calme, très posé. C'est quand même un énervé au départ, hein. Il est assez colérique, il vit sur un instant, hein, davantage Roger. Donc voilà, il a voulu une fois arrivé là-haut la même chose, il veut la même chose, il demande à boire, à manger, et puis il rencontre une cousine qui lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches, il n'y a plus rien ici, t'as assez mangé en bas, maintenant il faut que tu te reposes ici. Et puis, bon, c'est vraiment un brin d'humour. J'ai voulu faire un chapitre qui, je pense, pourrait se révéler tout à fait réel si on pense à tous ces gens qui ont tant de mal à ne pas fumer, à ne pas trop manger. C'était vraiment un petit clin d'œil.
Alaïs, l'héroïne de votre roman, Jenny Lafitte, elle a la volonté d'imprégner toutes celles et tous ceux qui l'entourent de l'amour. L'amour avec un grand A. Et justement, elle est presque dans une mission christique. Enfin, elle semble être, j'allais dire, investie d'une mission purificatrice. Enfin, elle veut apporter son aide, essayer de penser, P-A-N-S-E-R, de penser un peu notre monde en souffrance.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est notre devoir à tous. Alaïs est une femme extraordinaire dans le livre. Oui, elle est différente, ça c'est sûr. Elle a des pouvoirs, elle a des possibilités. Elle n'est que lumière. Donc toute personne qui vit des moments difficiles, qui est dans l'obscurité, tout à coup se trouve éclairée. En sa présence, les choses changent, les événements sont plus doux. Elle est la délivreuse, celle qui va enfin libérer les gens de situations terribles. Mais je pense qu'au fond, c'est notre rôle à tous. Tout le monde va à un monde parfait, le réclame à cordes et à cris en disant « mais il faut que le monde change, bah alors allons-y ».
Au moins un monde raisonnable, à défaut d'être parfait.
Oui, oui, mais non, on n'en est même pas de toute façon, on peut même pas employer ce mot de perfection. Mais nous avons eu de grandes entités qui sont venues sur cette terre, des hommes extraordinaire. Nous avons eu des Gandhi, nous avons eu des Martin Luther King récemment, dans les plus récents. Hein, il y a eu l'abbé Pierre qui a laissé une trace extraordinaire. nous avons eu des êtres autour de nous.
Non, mais il y a eu aussi des Pinochet, des Hitler.
Voilà, donc évidemment, le positif des Ben Laden, appelle le négatif, voilà, c'est ça. Nous sommes dans le pour et le contre. Mais notre rôle avant tout est de contrer tout ce qui peut faire du mal à cette terre, aux êtres, si bien aux animaux qu'à la nature. C'est notre rôle. La laïc est investie par cette mission. Qui est totalement, c'est presque humanitaire ce qu'elle fait, hein. C'est vraiment, elle ne le fait que pour l'autre, c'est un amour inconditionnel.
Finalement, il y a tout de même aussi un mystère quant aux fonctions, en tout cas la position sociale d'Alaïs, parce qu'elle se présente comme traductrice.
Mm-hmm. Oui, elle est traductrice-interprète, oui, bon. Oui.
Et c'est la raison pour laquelle elle peut d'ailleurs aisément parler chinois, enfin le mandarin, avec la petite Sujin.
Mmh. Oui, elle est. Alors bon, je n'ai pas mis l'accent hein, sur sa profession, les horaires, etc. Quelque chose de plus. Parce que c'est l'important, c'est la mission qu'elle accomplit. Oui. Voilà, c'est la mission qu'elle accomplit en sauvant Sujin. Parce qu'elle va la sauver. Il faut bien préciser que ça va être très difficile. Mais elle la sort de cet horrible cauchemar. C'est un horrible cauchemar, hein, ce que vit cette petite. Hein. Donc elle va la sortir de là, etc. Donc je n'ai pas mis l'accent sur une vie normale, entre guillemets, ordinaire. J'ai voulu parler vraiment de l'extraordinaire.
Nous allons, une fois de plus, nous séparer, Jenny, mais nous reviendrons très vite. On laisse nos auditeurs en excellente compagnie, puisque nous écoutons Je t'aimais trop, je t'aimais tellement, et c'est Nicolas Perrac qui interprète ce titre. Rendez-vous dans quelques minutes avec notre invité, Jenny Lafitte.
Tellement, ce sera ça l'important. Mais c'est pas dit que tu t'envoles. C'est pas dit. Mais si un jour la pauvre personne, je te dis, je t'aimais trop, je t'aimerais tellement, je ferais rien de ce que t'attends. Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement, ce sera ça l'important. Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement, rien de ce que t'attends. Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement, ce sera ça l'important. Je t'aimais trop, je t'aimerais tellement, je ferai rien de ce que t'attends.
Radion. Radion.
Nicolas Perrac, à l'instant sur votre radio locale. Avant de retrouver notre invité Jenny Lafitte, je tiens à vous informer que mercredi prochain, le 2 mai, nous vous proposerons un compte-rendu de la 15e fête du livre d'Autun avec plusieurs interviews d'auteurs venus présenter et dédicacer leurs ouvrages. C'est donc un rendez-vous que je vous demande de noter pour la semaine prochaine. Nous revenons aux côtés à la fois de notre invité, Jenny Lafitte, et de son héroïne Alaïs. La couverture du roman est bleue et le choix de cette couleur, bien évidemment, n'est pas naïf ni gratuit.
Non,
pourquoi le bleu, couleur finalement qu'on attribue plutôt aux garçons, alors que le rose c'est plutôt pour les filles, puis le tutu, c'est toujours un petit tutu rose ou très blanc pour les jeunes femmes. Là, le bleu, c'est plutôt masculin. Mais Alaïs, Jenny, vous voyez, j'ai fait la confusion. Vous allez nous expliquer pourquoi ce bleu.
Oui, alors, donc, elle va dans le monde bleu. Hein. Moi, ce que j'appelle le monde bleu, c'est le monde... c'est là où il y a le sanctuaire de la réponse. C'est là où elle va chercher ses réponses. Et donc, l'être bleu qui va devenir son ange gardien est aussi bleu. Est empreint de bleu. Je crois que ce bleu que j'ai choisi, c'est vraiment la couleur de la guérison. Pour moi, le bleu symbolise vraiment la douceur, la guérison, la plénitude. C'est une couleur que l'on peut porter quand on est triste, quand on est mélancolique. C'est une couleur très positive sur chacun, sur un mur, dans une pièce, un hôpital. J'aime beaucoup, beaucoup le bleu.
Et puis bon, c'est aussi le bleu, c'est le bleu du ciel.
Alors,
c'est bleu d'une immensité,
c'est la
effectivement.
Mer, c'est l'azur,
oui.
C'est l'horizon. C'est... Pour moi, le bleu symbolise vraiment l'éternité.
Et alors, ce petit être bleu qu'Alaïs est seul à pouvoir percevoir, il est un ange gardien. Il est la... Qu'est-il
C'est ce que j'appelle l'ange gardien. Oui, je l'appelle comme ça parce qu'il la protège en permanence et surtout, il ne s'est pas incarné sur Terre. Il fait partie de ces êtres qui nous accompagnent tous. Je pense que vous en avez un, comme je pense...
Tout le monde, vous pensez à un ange gardien.
Je pense que chacun a un ange gardien, tout à fait, qui que ce soit un être qui se soit incarné sur Terre, que ce soit une grand-mère, une arrière-grand-mère, un grand-père, un père, une mère... Et aussi, ça peut être une entité comme l'être bleu qui n'a pas connu d'incarnation terrestre parce que tout simplement, il n'est pas venu dans ce monde, mais participe au bon fonctionnement de celui-là au travers d'êtres comme Alaïs. Parce qu'Alaïs, bon, c'est un être qui a des connaissances. Hein. C'est une femme qui est venue de son plein gré. Hein. Elle s'est incarnée sur Terre de son plein gré. Elle a vraiment... choisi de venir, hein. Ce n'est pas, on va dire, tiens, voilà, elle est sur Terre parce qu'elle a telle et telle chose à apprendre. C'est une personne qui peut aussi bien travailler sur Terre comme là-haut, hein, dans le monde de l'invisible. Ça, c'est sûr que je pense qu'elle est, suffisamment évoluée pour comprendre que c'est à la fois le terrestre et le spirituel qui amèneront l'harmonie dans ce monde. La matière ne fait pas le bonheur à 100%, on le sait, que l'argent ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Si vous avez un enfant malade, une personne que vous aimez profondément, qui est partie, vous allez y penser à cette personne, mais elle ne sera plus matérielle, elle ne sera plus là, donc elle est ailleurs. Les gens qui parlent le mieux de ce genre de situation sont les êtres, les humains qui ont perdu des êtres chers, comme un membre de la famille, un enfant. Il parle très très bien de la continuité, de cet après-vie que j'aime tant dans mes romans.
Il y a un terme que vous mentionnez dans votre roman, Jenny, et je vais vous demander de nous l'expliquer un peu, c'est l'égrégore. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un égrégore ?
Alors, pour moi, un égrégore, pour le symboliser simplement, on dirait que c'est un gros chaudron, entre guillemets, parce qu'il faut mettre des mots. On est sur Terre, il faut mettre des mots terrestres, il faut donner une signification. Alors je dirais que toutes nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, vont quelque part. Rien n'est fait au hasard, rien ne se désintègre. Même un arbre mort continue à faire vivre un champignon, quelque chose. Il y a une continuité à toute chose. Donc ces égrégores sont comme des gros chaudrons, on va dire, récepteurs de nos pensées. Et c'est pour ça qu'il est très important de penser positivement. Parce que plus nous penserons positivement et plus nous déverserons en ce monde de ce chaudron de bonnes vibrations dont nous avons tant besoin.
Je rappelle que nous parlons d'Alaïs, la délivreuse de vie, le roman de Jenny Lafitte, qui est ce soir avec nous devant le micro, roman disponible chez vos libraires aux éditions Pierre Philippe. Et il faut bien expliquer à nos auditrices et auditeurs que le roman est équilibré, parce que finalement, point de départ, on sent une intrigue policière, il y a aussi beaucoup de romantisme, de l'aventure, de l'extraordinaire. Vous avez comme ça mis des ingrédients extrêmement divers, ce qui donne un roman qui accroche finalement différents lecteurs. Alors c'est vrai que la dimension extraordinaire des capacités intellectuelles et mentales d'Alaïs reste tout de même, me semble-t-il, le point fort et la clé de votre roman.
Oui, mais j'ai quand même, vous avez raison, il y a différents lecteurs, effectivement. J'ai des lecteurs qui m'écrivent, qui adorent le côté policier, qui me disent « on en veut encore plus côté policier ». D'autres qui vont me dire « ah, le côté policier m'interpelle moins, mais alors le côté spirituel, j'adore le surnaturel, allez-y, donnez-nous encore du surnaturel ». Et j'ai même le côté sentimental, parce qu'Alaïs va tomber très très amoureuse de Nicolas. J'ai voulu quelque chose d'assez, une écriture assez libre, hein. J'ai voulu un amour très, très authentique, très sincère. Il n'y a pas trop de pudeur non plus sur les mots, hein. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit une grande histoire d'amour.
Vous auriez peut-être pu forcer un peu l'érotisme vers certaines scènes.
Je trouve qu'il y en a déjà pas mal.
Ah bon? J'ai trouvé que c'était très léger.
Oui.
Vous auriez pu en mettre un peu plus pour nous exciter un peu plus.
Mais vous êtes polisson, Yannick. Non, là je pense que non. Non, j'ai dans le second, là le second sort donc en avril. J'ai donc mis aussi plus de policiers, hein, puisqu'on m'a demandé beaucoup de mettre quand même des policiers. Vous verrez, c'est une autre enquête très différente de la première.
Donc le second roman, c'est Alaïs l'Immortel,
voilà,
qui va sortir donc au mois d'avril et au mois de mai ensuite.
Voilà, parce qu'à la fin, je réserve vraiment une surprise au lecteur avec cette immortalité. C'est quelque chose dont je voulais vraiment parler. Et donc, j'ai vraiment créé une histoire tout à fait nouvelle, hein, qui n'a pas, j'espère, mon Dieu, n'a pas été écrite. Mais je ne crois pas, parce que mes lecteurs me disent qu'ils n'ont jamais lu ça. Mais ils en demandent, donc je devais faire un autre livre. Et j'ai refait un Alaïs parce que j'ai des lecteurs vraiment assidus qui me disent « mais on en veut encore, on ne peut pas s'arrêter là, on veut savoir davantage de choses ».
Jenny, changement de rythme dans quelques minutes. On va marquer une dernière pause musicale parce que le temps passe vite et il va falloir que nous concluions. Tango et musique électronique, voici Gotham Project et Una Musica Brutal. Et on retrouve Jenny Lafitte dans quelques minutes. Elle est avec nous ce soir pour parler de son roman Alaïs, la délivreuse de vie, aux éditions Pierre Philippe. C'était le groupe franco-argentin Gotan Project, autre rythme désormais celui de l'écriture avec Jenny Lafitte. Elle est l'auteur donc de Alaïs, la délivreuse de filles, de vie, pardon, pas de filles, de filles peut-être aussi un
oui,
peu.
Oui, aussi elle, un peu, Suji. Elle délivre
Alaïs, la délivreuse de vie, parue aux éditions Pierre Philippe. La police nationale a beaucoup de chance d'avoir Alaïs pour avancer dans l'enquête, pour effectivement arrêter et empêcher de nuire les Chinois. Et il y a un épisode absolument exceptionnel, c'est celui de la... C'est le policier est dans son bureau, une pochette d'allumettes tombe au sol et il veut absolument, ça fait plusieurs jours, il enquête, il veut connaître le nom du chef de cet atelier de confection clandestin rue des Saules à Paris. Et là, les allumettes se déplacent toutes seules et inscrivent sur le sol le nom du chef chinois. J'en dis peut-être trop, mais c'est aussi pour que nos auditrices et auditeurs perçoivent bien, s'ils ne l'avaient pas encore perçu, ce dont je doute, mais le caractère fantastique, surnaturel, les dimensions exceptionnelles des pouvoirs et des talents d'Alaïs.
Oui, oui, elle le ressent en difficulté. En fait, c'est un inspecteur donc, qui s'appelle Mathieu, hein, donc, qui est Matt pour tout le monde, et qui est très rationnel. Alors là, on est vraiment dans le policier, il est rationnel, Mathieu veut du concret, lui, il lui faut des dossiers, des rapports, et puis alors, il travaille tellement bien qu'il est donc monté en grade, et il se retrouve maintenant, gratte-papier, dans un bureau, il est extrêmement malheureux. Richard, qui est son coéquipier depuis toujours, se désole de le voir si triste, etc. Et donc, il arrive enfin sur le terrain, parce qu'on le renvoie sur le terrain, on a besoin de ses compétences. On le renvoie sur le terrain et il arrête enfin un des bras droits donc du chef chinois, qui s'appelle Wong, on peut le dire. Donc, il dit, ça y est, je vais en savoir plus, etc. Et en fait, chez les Asiatiques, il y a une particularité, bon, ça, c'est connu, c'est le silence, hein, la loi du silence. On ne dit pas, on ne parle pas. On ne trahit pas, on préfère mourir que parler. Et donc, évidemment, il se trouve face à des murs, il les passe les uns après les autres parce qu'il a également arrêté les gardes du corps. Et il dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et Alaïs, de chez Nicolas, elle est donc dans l'appartement de l'homme qu'elle aime, hein, et elle ressent vibratoirement...
Toujours la télépathie.
Toujours par télépathie, par médiumité, que Matt est en difficulté, que Mathieu n'arrivera pas à les faire parler, et elle sait, alors on va pas dire comment elle sait, mais que c'est Wong.
Pas trop en révéler.
Voilà, que c'est Wong qui est la tête de tout ça. C'est un homme immensément riche, qu'il va falloir absolument arrêter, ça va être très difficile. Ça sera au courant dans le cours de l'histoire. Et donc, elle fait tomber cette boîte d'allumettes que Matt tient pour allumer une cigarette. Et le nom de Wong se forme par terre, il n'en revient pas, il n'y croit pas, mais à partir du moment où il prononce ce nom, l'autre en face tombe presque de sa chaise en disant « mais d'où il sort ça ?» Et là, ça révèle beaucoup de choses à la police. Hein.
Et Alaïs, lors d'une prise d'otage, est capable, là aussi, grâce à ses pouvoirs exceptionnels, de dénouer la situation. En tout cas, au moins, ça ne se terminera pas de manière tragique, comme ce fut le cas au mois de mars dernier à Toulouse, triste événement. Jenny, nous allons devoir nous quitter.
Oui.
Je vous remercie d'avoir été l'invité de Wagon Livre, d'être monté à bord de notre wagon ce mercredi sur Radion. Je rappelle et je confie à celles et ceux qui nous ont écoutés, donc une dernière fois, le titre de votre roman. Donc c'est un premier roman, Alaïs, la délivreuse de vie, c'est aux éditions Pierre Philippe. Et puis, au moment où cette émission sera diffusée, on pourra aussi se procurer donc le second roman, toujours signé de Jenny Lafitte, Alaïs l'immortel, chez le même éditeur Pierre Philippe. Cette émission sera disponible en podcast d'ici quelques jours sur le site de Radion. Et donc plongez-vous au cœur de l'intrigue du roman de Jenny dont elle a si bien parlé ce soir. J'espère qu'elle vous a donné envie, je l'espère. Donc on est dans l'univers policier, sentimental, spirituel et puis bien sûr fiction. C'est un, on peut dire, beaucoup d'ingrédients où chacun, je crois, peut y trouver plaisir, divertissement, action,
oui,
et bonheur de lecture, bonheur aussi de vous avoir reçu devant ce micro à Dijon, à la brasserie, l'imprimerie qui nous a accueillis, ce qui explique les bruits d'assiettes et les travaux de Dijon.
C'est moi qui vous remercie infiniment, hein, Yannick, de m'avoir reçu. C'est vraiment un bon moment, un grand moment et puis un bon voyage aussi. Hein. Nous n'arrêtons pas de voyager. Moi, j'ai fait voyager chaque fois tout le monde. Vous êtes venus jusqu'ici, je vous en remercie infiniment. Et puis, bon, pour tous les Auxerrois, tous les Lyonnais, les gens de Lyon, les Iconais. Bien, je leur souhaite une très très bonne continuation, beaucoup beaucoup de positivité, beaucoup de courage aussi pour leur avenir, qu'ils soient contents de continuer dans leur vie. Nous avons la vie en nous, c'est le plus important, nous pouvons nous battre pour elle.
Merci Jenny.
Merci Yannick.